J'ai une sélection de podcasts très sympa, si ça vous dit.
Oh, j'adore les bons podcasts.
Eh ben, j'en ai un tout nouveau qui parle des fantômes. Il est vraiment génial.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
Je suis juif et je sais très bien ce qu'est un D-Book. C'est le genre de menace qu'on invoquait pour faire peur aux enfants.
C'était le mal à l'état pur.
Oh, what's in the box? What's in the fucking box?
Give me the gun.
He just told
you. You lied!
J'ai senti que quelque chose se déchirait en moi.
Je suis tellement fière de toi d'avoir conservé cette boîte. Rien ne t'y obligeait. C'était très courageux de ta part.
Bonjour, bonsoir. Chaque soir de pleine lune, vous pouvez observer, quand le ciel est dégagé, un astre lumineux errant qui possède, comme une médaille, sa face cachée. Une face cachée qui évolue uniquement dans l'obscurité. L'obscurité, cet autre côté, ce territoire mystérieux et effrayant sur lequel nous allons pénétrer. Un lieu peuplé de forces invisibles, de puissances de l'ombre qu'il est préférable de ne pas provoquer ou d'invoquer, car on ne joue pas avec ce que l'on ne connaît pas.
Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?
C'est ce que j'ai toujours voulu. Je veux voir. Je veux savoir.
Si vous pensez que tout cela n'est que chimère, fantasme ou illusion, peut-être que le récit authentique et maléfique que nous allons vous raconter va profondément remettre en question vos préjugés sur tout ce qui concerne les esprits maudits et les cas de possession. Vous écoutez Nuit Blanche, le podcast, à la réalisation Franck Pourpris, au micro, Michael Marquet.
Non, ce n'est pas la main qui nous appelle, c'est le désir.
Le bazar des rêves, la boutique de l'insolite, vous n'en croirez pas vos yeux. C'est écrit en toutes lettres.
C'est que ça doit être vrai. Et qui est le propriétaire ?
On n'en sait rien. Il n'est pas d'ici, en tout cas.
Que ce soit sur Internet, dans un vide-grenier, une petite boutique ou encore une brocante, on trouve de nombreux objets d'occasion à des prix souvent très attractifs. Trouvailles à prix raisonnable ou bien pièces de collection rares et recherchées, elles racontent toutes une petite ou une grande histoire. Et parfois même, une histoire vraiment bizarre. C'est pourquoi il faut toujours être prudent avant de payer comptant.
95 cents.
Eh bien, on va considérer ça comme un acompte. On est très loin de la somme, Brian, mais ça n'en est pas moins une offre. On va considérer que c'est la moitié du prix, d'accord ? Oui.
Oui, méfiez-vous des bonnes affaires, car elles cachent souvent un grand mystère et peut-être même un démon des enfers. Pour ceux et celles qui préfèrent frémir que dormir, sachez que nous avons en notre possession une boîte à D-Book que nous allons ouvrir. Un geste qui ne sera pas sans conséquences. Nous sommes au début des années 2000. Kevin Manis, 36 ans, possède une modeste boutique d'antiquités de restauration de meubles anciens qui se trouve à Portland, dans l'Oregon. Elle est située au 221 West Burnside Street, non loin du pont Burnside, un pont basculant construit en 1926 et qui enjambe la rivière Willamette. Sûrement aussi vieille que le pont, la devanture du Haddies Market, c'est son nom, est en vieux bois peint de couleur crème. Le magasin possède une devanture d'environ 7 mètres de longueur, avec une grande vitrine et deux plus petites qui entourent la porte d'entrée protégée par un portail en fer forgé. C'était au XXe siècle, une petite échoppe de quartier dans laquelle on pouvait se procurer bouteilles d'alcool et cigarettes.
Alors, qu'est-ce qui te ferait envie? Que désires-tu? Tout ce qui est ici est à vendre. Mais tout ce qui est à vendre n'est pas ici, il y a aussi un sous-sol.
Les articles vendus par Kevin Manis sont d'un autre ordre. Il y a des œuvres d'art, des meubles anciens rénovés et de nombreuses antiquités. Il y en a pour tous les goûts et de toutes les époques. La spécialité de Kevin, c'est de proposer de petits objets exotiques et originaux, car ils sont faciles à restaurer et à revendre.
Il y a quelqu'un ?
Il s'approvisionne directement dans des vide-greniers, mais aussi des ventes aux enchères de biens mobiliers suite à une succession. Les héritiers préférant souvent avoir du cash dans la poche que de s'encombrer de vieilleries poussiéreuses et démodées.
Pour le reste, pour l'autre moitié, tu t'engages à faire ce que je te dis.
En septembre 2001, notre antiquaire gare son vieux pick-up devant une petite demeure des années 60 de la banlieue de Portland ayant appartenu à une vieille dame se prénommant Avella et qui vient tout juste de décéder à l'âge de 103 ans.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ?
Oui, moi.
Le verrou n'était pas mis, alors je me suis permis d'entrer.
Pourquoi le verrou serait-il mis ? Entre qui veut. Mais tu es déjà venu ici.
Il est reçu par sa petite fille qui organise sur place une vente aux enchères. Après les présentations, la conversation s'engage sur un ton amical et la jeune femme d'une trentaine d'années prénommée Déborah se livre à quelques confidences. Elle raconte à Kevin que sa grand-mère juive est née en Pologne. C'est dans ce pays qu'elle a grandi, qu'elle s'est mariée et a élevé ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient envahis par les nazis au mois de septembre 1939. Arrachée à sa famille par les soldats du Troisième Reich, elle est envoyée dans un camp de concentration. Elle sera l'une des rares personnes de sa famille à avoir survécu aux atrocités de l'Holocauste. Son unique salut, elle le doit à une évasion réussie avec d'autres prisonniers. Elle s'est enfuie en pleine nuit vers l'Espagne, où elle a vécu sous une fausse identité jusqu'à la fin des conflits. Après les atrocités de la guerre, comme de nombreux Européens, elle a souhaité tenter sa chance de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Elle n'a emporté avec elle, pour cet aller simple vers l'inconnu, qu'une grande malle de voyage, contenant une boîte à couture et un petit coffret en bois cadenassé, qui n'est autre qu'un petit coffre à vin portatif acheté en Espagne.
Mais où l'as-tu trouvé ? Parce que j'avais complètement perdu espoir.
Disons que j'ai mené ma petite enquête.
Oh.
La jeune femme se rappelle que sa grand-mère avait demandé que le coffret soit enterré avec elle. Mais comme ses dernières volontés sont contraires aux règles d'un enterrement juif orthodoxe, cette demande n'a pas été honorée.
On a trouvé deux ou trois choses. Combien vous m'arrachez ?
Kevin, enfin connaisseur, scrute attentivement tous les objets mis en vente sous la forme de lots et repère quelques meubles intéressants. En particulier cette boîte à couture et l'écrin pour bouteilles de vin. Il est temps de passer à présent aux enchères qui se déroulent dans le salon de la maison. Kevin Manis est plus que jamais déterminé et il remporte pour la modique somme de 27 dollars le lot numéro 29.
Un acheteur ne doit jamais dire au vendeur ce dont il dispose. Si tu ne peux pas mentir, tais-toi.
Tout en chargeant le coffre de son pick-up, l'antiquaire se sent de bonne humeur car il est sûr d'avoir fait une bonne affaire. Il y a dans ce lot numéro 29 des meubles qu'il pourrait revendre pour peut-être plusieurs centaines de dollars. Et puis, cet étrange coffret à vin qu'il saisit dans ses mains pour mieux l'ausculter.
Il y a des choses dégravées. C'est très beau.
Ces instructions sont ridicules.
C'est alors qu'il entend dans son dos une personne interpellée lui dire « C'est donc vous qui avez remporté la boîte à e-book ?» Cette personne, c'est Déborah, la petite fille de la propriétaire récemment décédée. Sur le moment, trop occupé à ranger dans son coffre tous les objets qu'il vient d'acheter, Kevin ne prête pas trop attention à l'emploi du mot e-book. Et pourtant, comme il est lui aussi de confession juive, il en connaît la signification si particulière.
Comment l'aviez-vous eue ?
Maman me l'avait offerte pour mon anniversaire. Je sais pas où elle l'avait achetée, mais on était plus que terrifiés.
Un e-book est, dans la mythologie juive et kabbalistique, un esprit désincarné malveillant ou un démon qui habite le corps d'un individu auquel il reste attaché. Le D-Book peut être emprisonné dans une armoire, un placard, mais si le meuble est ouvert, de nombreux malheurs peuvent s'abattre sur son propriétaire jusqu'à ce que celui-ci cède l'objet à une autre victime.
Ne la garde pas ! Mais d'où est-ce que tu tiens cette boîte ? Comment est-ce que tu sais tout ça ?
Mais pour Kevin, c'est surtout dans ses souvenirs de jeunesse, un personnage fictif pour calmer les enfants turbulents qui n'obéissent pas à leurs parents. Un peu comme le grand méchant loup ou le père Fouettard. C'est pourquoi Kevin ne prête qu'une oreille distraite aux propos de la jeune femme, qui lui explique que lorsqu'une personne s'intéressait de trop près au contenu de cette étrange boîte, sa grand-mère crachait à trois reprises entre ses doigts. Elle se souvient aussi qu'il était strictement interdit d'y toucher et encore moins de l'ouvrir. Sentant que cette petite boîte est précieuse et rattachée à de nombreux souvenirs familiaux, Kevin propose spontanément à la vendeuse de reprendre l'objet. Mais étrangement, son interlocutrice refuse le présent, insistant juste sur le fait de ne jamais ouvrir le coffret, comme le souhaitait de son vivant sa grand-mère. Après une poignée de main et un sourire, Manis retourne à sa voiture pour revérifier à nouveau l'enchevêtrement de sangles qui maintiennent le bric-à-brac d'objets entassés à l'arrière de son véhicule. Le moteur du pick-up résonne dans la petite cour, crachant un peu de fumée grise, puis la voiture quitte les lieux. Quelques minutes plus tard, Kevin Manis est de retour dans sa boutique, les bras chargés d'objets. Une boutique dans laquelle s'entassent du sol au plafond des meubles anciens qui lui donnent un aspect confiné, presque étriqué. Dans de petites allées, les visiteurs et potentiels acheteurs se faufilent entre bois, dorures et verres sculptés. On trouve ici tous les styles, toutes les matières pour faire de bonnes affaires.
Je peux vous offrir quelque chose que vous ne refuserez pas, j'espère. Que diriez-vous d'un petit objet d'art, hein ?
Si la façade et l'intérieur de la boutique ne sont pas très grands, il y a au fond du commerce une grille en fer forgé qui donne directement sur un escalier. En bas, au sous-sol, se trouve un vaste espace d'environ 380 mètres carrés. C'est dans cette arrière-boutique, à l'abri des regards indiscrets, que le patron du Hadiz Market entrepose les meubles les plus volumineux et des objets qui ont besoin d'être nettoyés et restaurés, car une partie de cette vaste pièce sans fenêtre a été aménagée en atelier. C'est donc tout naturellement que Kevin Manis descend les escaliers pour entreposer ses toutes dernières acquisitions, dont la petite boîte à vin de la vieille dame polonaise. Une boîte en acajou, au reflet chatoyant et dont le vernis est par endroits craquelé et abîmé. Elle s'ouvre en son milieu comme une petite armoire dont les deux portes sont ornementées de grappes de raisin en laiton patiné du plus bel effet. Sous ces deux portes, un petit tiroir comme celui d'une commode, avec une large poignée en laiton doré. Il suffit d'ailleurs de tirer cette poignée pour que, par un astucieux mécanisme, le tiroir et les portes s'ouvrent en même temps, presque comme par enchantement. Détail troublant, il y a une inscription en hébreu gravée à l'arrière du meuble, mais impossible d'en connaître la signification.
Intéressant. C'est pas seulement une énigme, c'est une mécanique.
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Rien, j'ai touché rien.
Il faut dire que ce genre de coffret en bois était commun dans les familles juives des siècles passés, car souvent utilisé comme objet de cérémonie en raison de la symbolique du vin dans le judaïsme. Il est une marque de la fertilité de la terre d'Israël et consommé lors de rituels hébraïques importants, comme la circoncision, ou bien encore pendant un décès ou un mariage.
Papa, t'as dit que t'allais ouvrir la boîte pour moi ?
Eh ben, c'est bizarre. On dirait qu'il n'y a aucun joint.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, je crois que ça veut dire que celui qui a fait ça voulait pas qu'on puisse l'ouvrir. Ou, en tout cas, il voulait pas qu'on puisse l'ouvrir facilement.
Il est déjà tard lorsque Kevin ferme sa boutique. Avant de partir, Il passe quelques minutes au sous-sol afin d'observer plus attentivement la petite boîte en bois verrouillée par un loquet et un petit cadenas en laiton. N'ayant pas trouvé la clé de ce dernier, Kevin très prudemment retire avec un tournevis la serrure sans abîmer le bois de la double porte. Très rapidement, dans un léger craquement, l'ensemble cède et les deux portes s'ouvrent immédiatement en grand, car elles possèdent ce fameux mécanisme spécial qui confère à la boîte un attrait supplémentaire. Et c'est le genre de détail qui peut intéresser un collectionneur et rehausser sa valeur marchande.
T'entends ça ? Ça bouge.
Alors, quelqu'un a dû l'ouvrir pour y mettre ça.
Il est temps à présent d'inspecter le contenu de la boîte. Son nouveau propriétaire découvre toute une série d'objets plutôt déconcertants. Il y a deux pièces de monnaie très sales et très anciennes, une de 1925 et l'autre de 1928. Il y a aussi une petite coupe dorée dont la forme rappelle celle d'un calice, et un étrange chandelier en fer forgé avec des pieds dont la forme courbée ressemble au bras d'une pieuvre.
C'est un chandelier qui date du 19e siècle.
Encore plus troublant, il y a deux mèches de cheveux attachées par des ficelles, une claire et l'autre foncée. Il y a aussi un bouton de rose séché, et au fond du coffret a été déposée une stèle en granit composée de plusieurs pièces sur laquelle est gravé le mot Shalom. À première vue, la petite boîte à vin a été transformée en coffret à souvenirs contenant quelques reliques affectives et religieuses.
Vous pensez que la pierre est ici ?
Comment vous savez pour la pierre ?
Qu'est-ce qui se passe ?
Reculez !
Kevin Manis se réjouit de partager sa découverte avec son employée, Jane Howerton. C'est une jeune femme serviable et discrète. Jane s'occupe depuis plus de 2 ans de la boutique lorsque son patron est en vadrouille dans les vides-greniers et les ventes aux enchères de la région. Un matin, alors que Kevin s'est absenté, Jane descend au sous-sol juste avant l'ouverture du magasin pour mettre un peu d'ordre et passer un coup de balai dans ce vaste entrepôt poussiéreux et mal éclairé. Jane, et ce n'est pas dans ses habitudes, se sent observée, comme s'il y avait une présence quelque part dans l'obscurité. Tout à coup, le téléphone sonne. C'est Geneva, une amie de Jane, qui souhaite parler à Kevin. Jane lui explique qu'il s'est absenté pour la matinée, mais qu'il sera demain au magasin pendant toute la journée. Lorsqu'elle raccroche, Jane est de plus en plus mal à l'aise. Alors, pour se changer les idées, elle décide de quitter le sous-sol pour ouvrir la boutique en prenant soin d'éteindre la lumière. Mais dans les escaliers, quelque chose de surprenant va se passer. La vendeuse entend un bruit en provenance du fond de la remise. Jane se retourne, attend quelques secondes sans bouger, puis dit à voix haute : Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Nous ne sommes pas encore ouverts. Tout à coup, les lumières se rallument toutes seules et résonnent dans tout le sous-sol un bruit de verre brisé. Jane avance prudemment dans une petite allée pour découvrir avec stupéfaction un amoncellement de bris de verre par terre. Puis soudainement, c'est une chaise en bois qui tombe sur le sol. La jeune femme hurle de terreur et remonte à toute vitesse les escaliers. Effrayée par ce qui vient de se passer, elle appelle sur son portable Kevin. Elle lui explique qu'il y a une personne qui s'est introduite dans le sous-sol du magasin et qu'elle a cassé plusieurs objets. Au bout du fil, Kevin tente de rassurer Jane, devenue hystérique. Il perçoit dans le combiné entre deux cris de son employé des bruits de fracas. Il insiste. « Mais qui est là ? Qui est avec toi ?» Jane, désemparée et apeurée, lui répond « Je ne sais pas, je ne vois personne. » Puis, la communication est subitement coupée. Kevin décide sur le champ de faire demi-tour et de retourner à la boutique. Lorsqu'il arrive, la porte de son magasin n'est pas fermée. Par contre, la porte qui mène au sous-sol est fermée à clé.
Pas seul.
Chose étrange, la lumière ne fonctionne plus. C'est donc avec une lampe de poche que le propriétaire de la boutique explore le sous-sol en appelant Jane qui ne répond toujours pas. La scène est surréaliste. Plus d'une dizaine des tubes néons du plafond sont brisés. Il y a du verre partout sur le sol. Mais qui a bien pu faire une chose pareille ? Surtout que rien ne semble avoir été dérobé. Kevin Manis en déduit que c'est Jane qui est à l'origine de ce saccage. Elle est la seule autre personne à avoir les clés de la boutique et l'unique accès à cet entrepôt se fait par les escaliers. car il n'y a ni soupirail, ni porte dérobée.
Ce n'est rien, ce doit être l'orage.
Mais quel orage ?
Je vous assure, je le sens venir.
Jane Howerton démissionna ce jour-là et décida de ne plus jamais revenir dans la boutique. Quelque chose s'était passé, quelque chose d'inexplicable, mais d'assez bouleversant pour lui faire perdre son job et la confiance de Kevin. La boîte à D-Book venait de faire sa première victime.
J'ai remarqué qu'il t'arrivait parfois de parler à cette boîte.
C'est pas à elle que je parle. C'est à mon ami.
Ton ami ?
Quoi ?
T'as dit que tu parlais à ton ami ?
Mon ami qui vit dans la boîte.
Ton ami vit dans cette boîte.
Quoi ?
Il vit à l'intérieur.
Elle vit. C'est une femme.
Nous sommes le 31 octobre 2001, soit 2 semaines après l'achat du petit coffret à vin. C'est un jour particulier pour Kevin Manis, car aujourd'hui il a prévu de manger au restaurant avec sa mère, dont c'est l'anniversaire. Un peu avant l'ouverture de sa boutique d'antiquité, on sonne à l'entrée. C'est une petite dame âgée aux cheveux gris qui se tient dans l'encadrement de la porte. Elle s'appelle Ida Manis, et c'est son fils qui vient lui ouvrir et la saluer. Kevin a préparé à la hâte un petit cadeau. Il propose à sa mère de s'asseoir sur une chaise confortable dans la boutique, le temps d'aller le chercher. Au bout d'une minute, il réapparaît avec dans ses mains une sorte de petite armoire portative sur laquelle il y a 2 grappes de raisin en relief et juste en dessous, un tiroir. Ida trouve l'objet intriguant. Depuis qu'il se passionne pour les objets anciens, Kevin offre régulièrement à sa mère des trouvailles insolites, comme ce petit coffret à vin qui ne manque pas de charme, avec son bois patiné, son vernis écaillé et qui contient peut-être, se dit Ida, une bouteille millésimée. La vieille femme remercie son fils pour cette délicate attention et pendant qu'il retourne au sous-sol pour régler quelques affaires urgentes, Madame Manis en profite pour contempler le coffret en bois. À moins que ce ne soit lui qui l'observe.
Et j'ai subitement eu la curieuse impression que la boîte m'observait aussi. J'ai ouvert la boîte et il en est sorti un courant d'air froid.
Il semble bien que cette boîte ne contienne pas du bon vin, mais un mauvais présage. Une menace invisible qu'Ida décrira plus tard comme le mal à l'état pur.
Prenez garde. Mortel. Ne pas ouvrir. Alors, ne l'ouvrez pas.
La sensation est si prenante, si oppressante qu'Ida s'effondre sur sa chaise et ne peut plus bouger. Quelque chose vient de prendre possession de son corps et de son esprit. La bouche de la vieille dame commence à se tordre et s'affaisser. La peau sous ses yeux se met à gonfler. Ses membres s'engourdissent. Elle n'arrive plus à s'exprimer. Les symptômes parlent d'eux-mêmes. Ida Manis est en train de faire un AVC. Elle sent qu'elle est en train de partir. Elle n'a plus la force nécessaire pour prévenir son fils qui est toujours au sous-sol. C'est in extremis que Kevin découvre sa mère pétrifiée, avec juste sur les joues quelques larmes qui viennent de couler. Il appelle les urgences en espérant que les secours puissent la sauver, sans comprendre vraiment ce qui vient de se passer.
Ça va ? Restez calme, je vous emmène faire une petite virée. Tenez le coup, ça va aller, ce sera pas long.
Ida est transportée en ambulance à l'hôpital le plus proche. Le diagnostic des médecins est sans appel. Il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, ce qui explique qu'elle ne pouvait plus ni parler ni bouger. Et pourtant, Ida n'avait qu'une seule chose en tête à ce moment-là, quelque chose d'encore plus important que sa propre vie. Prévenir son fils qu'il devait absolument se débarrasser de cette chose possédée par une force incontrôlable et diabolique. Si elle pouvait faire exploser des néons, déplacer des objets et provoquer un AVC, alors elle serait sûrement capable de s'en prendre encore à d'autres personnes et mettre leur vie en danger. C'est ainsi que le 31 octobre 2001, la boîte à D-Book venait de faire sa seconde victime.
Votre cœur a cessé de battre pendant 2 minutes. Non, ne vous inquiétez pas, nous vous avons réanimé. Vous êtes parmi nous.
Le lendemain, Kevin rend visite à sa mère, toujours hospitalisée. Elle est partiellement paralysée et a perdu la capacité de s'exprimer. Mais elle peut communiquer avec un petit tableau et des lettres que le personnel soignant lui a données. Elle écrit alors « Hate Gift ». Je déteste ce cadeau en français. Son fils ne saisit pas vraiment la portée du message. Il comprend juste qu'Ida n'aime pas son cadeau d'anniversaire et promet de lui en trouver un autre dès qu'elle sera de nouveau sur pied.
Casse-toi d'ici, allez, dégage! Peut-être que ça tombera sur toi, mon ami. Ça signifiera que la fin est arrivée. Personnellement, j'ai pas voulu savoir.
Non, en effet. Tu l'as donné à ta mère. Espèce d'enfoiré.
C'était une vieille dame.
Enfoiré! Garde ta boîte!
Dégage, casse-toi!
La boîte à D-Book est donc à la recherche de nouveaux propriétaires et elle ne tardera pas à les trouver. Kevin Manis, malgré les avertissements, ne comprend toujours pas qu'il détient un objet possédé. C'est donc tout naturellement qu'il décide en ce début du mois de novembre 2001 d'offrir l'étrange coffret à vin à sa sœur. Mais quelques jours plus tard, elle arrive à l'improviste au magasin de son frère avec la boîte entre les mains. Selon ses observations, il y a un problème avec le mécanisme, car les portes se sont ouvertes toutes seules, sans aucune intervention humaine, et à plusieurs reprises.
Hé, c'est juste un jeu, tu sais. Il faut rester calme.
La boîte passe ensuite entre les mains du frère de Kevin, qui lui rend au bout de 3 jours seulement. Selon son frère, elle sentait le jasmin, alors que sa femme affirmait qu'elle émettait une forte odeur d'urine de chat.
Écoute-moi bien, il faut que tu donnes ta boîte à quelqu'un que tu aimes. Il faut que tu aimes sincèrement cette personne pour la lui donner.
Pourquoi je ferais ça? Hein?
C'est à ce moment-là que Kevin commence lentement mais sûrement à faire le lien entre tous les incidents bizarres survenus chez les membres de sa famille et dans sa propre boutique, avec ce petit coffre, pas comme les autres. La seule solution est donc de s'en débarrasser au plus vite. Pour mettre toutes les chances de son côté, l'antiquaire place la boîte bien en évidence à l'entrée de son magasin. Rapidement, un couple de personnes âgées manifeste un certain intérêt pour la boîte en acajou. Kevin use alors de ses talents de vendeur pour présenter le coffret sous ses meilleurs aspects, tout en omettant volontairement de préciser tout ce qui venait de se passer. Son unique motivation n'est pas de gagner de l'argent, mais à ce moment précis de se séparer le plus rapidement possible de la boîte à D-Book.
C'est toute une découverte. C'est vrai, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être.
D'après le travail du bois, on a dû la fabriquer en Pologne dans les années 1920 ou 30. Elle provient sans doute d'un village juif, si j'en juge par ses inscriptions en hébreu. Je crois que c'est écrit D-Book.
À son grand soulagement, la vente se fait, mais sa joie sera de courte durée. Quelques jours plus tard, en arrivant à son magasin, Kevin va trouver la boîte appuyée contre la porte d'entrée, avec un message écrit à la main sur un bout de papier.
Que puis-je pour vous ?
Ce coffret est porteur d'une étrange obscurité. Personne donc ne semble vouloir garder l'objet. Son propriétaire est désespéré, mais pas à court d'idées. Il décide de la ranger au fond de la remise qui se trouve derrière sa maison, en espérant ne plus jamais en entendre parler.
Où est ma boîte ?
Je m'en suis débarrassé.
Dis-moi, où elle est ?
Elle n'est pas ici.
C'est alors que Kevin Manis commence à avoir des cauchemars récurrents. Il est en compagnie d'une jeune femme qu'il semble connaître et en qui il a entièrement confiance. Ils marchent et discutent ensemble, lorsque tout à coup le visage de cette personne se transforme en une sorcière hideuse et démoniaque qui s'en prend physiquement à Kevin, le rouant de coups jusqu'à ce qu'il se réveille en sursaut. C'est à ce moment précis que l'invraisemblable se produit. Il constate avec effroi qu'il a des ecchymoses dans le dos et sur les bras. Et chaque nuit, c'est la même histoire qui le hante à nouveau. Même frayeur, même scénario.
Ça va?
Oui. Oui. Vous êtes...
D'ailleurs... irréel. Cauchemardesque?
Non. Non. Vous êtes...
D'autres manifestations étranges vont perturber le quotidien de Kevin. Dans la remise de sa propriété, il y a un détecteur électronique de fumée. Celui-ci s'est mis plusieurs fois à sonner sans raison valable. Et puis, il y a parfois cette odeur nauséabonde d'urine qui se propage dans toutes les pièces de la maison. Kevin Manis est cette fois-ci persuadé que la boîte est maudite et qu'il est temps de s'en défaire au plus vite. Et quand on est pressé de vendre un objet, le moyen le plus rapide pour s'en débarrasser, c'est de le proposer sur le site de vente aux enchères eBay. Publié au printemps de l'année 2003, l'annonce spécifie qu'il s'agit d'une boîte à vin hantée de tradition juive, afin d'intéresser de potentiels acheteurs qui sauraient quoi faire avec ce genre d'objet occulte, et peut-être même qui sauraient comment stopper définitivement les phénomènes inexpliqués qui y sont associés. C'est ainsi que va naître l'histoire bizarre de la boîte à Dibouk, en référence aux démons de la mythologie hébraïque. L'annonce de Kevin se termine par cette phrase. Si quelqu'un sait comment procéder, alors aidez-moi en achetant le petit coffret et faites ce qu'il convient de faire avec ce genre d'objet.
On dirait qu'elle ne veut pas se détacher de moi. On dirait une malédiction, j'y comprends rien. Mais il faut que je m'en débarrasse avant que toute notre famille soit tuée. Il faut que je la donne à quelqu'un.
À qui est-ce que tu pourrais te donner ce fléau ?
Après seulement une semaine, l'annonce a déjà été consultée par plus de 7500 personnes. 7500 internautes qui surveillent la vente d'un petit coffret à vin. Ce n'est pas anodin. Le samedi 14 juin 2003, Kevin fait une mise à jour du texte de son annonce et précise. Hier, vendredi 13 juin, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai retrouvé les 10 poissons de mon aquarium morts.
Le rabbin Shapir demande où vous avez trouvé ça.
Je l'ai acheté dans une vente des barres.
L'avez-vous ouverte ?
Avez-vous ouvert la boîte ?
Parmi toutes les personnes à suivre avec intérêt la vente de la boîte maléfique, il y a un jeune étudiant de la Truman State University du Missouri. Il s'agit de Joseph Nitzke, qui avait d'ailleurs repéré l'annonce pour le moins originale sur eBay. Il y a certes quelques photos, comme sur les autres annonces, mais surtout un texte interminable qui relate tous les phénomènes qui se sont déroulés depuis son achat en septembre 2001. Il en parle d'ailleurs un soir à son colocataire Brian Grubbs sur le ton de la plaisanterie. Ni l'un ni l'autre ne semble croire à toute cette histoire de démons enfermés dans un vieux coffret.
Je sais que ces histoires d'esprit, ça n'existe pas, mais pourtant j'ai aucune envie de toucher ce truc.
T'en fais pas, ça se vend dans les magasins de jouets.
Mais ce que Brian ne sait pas, c'est que Joseph a misé en secret $140, juste pour voir, juste par curiosité, sans se soucier de savoir s'il allait ou non remporter l'objet. Et pourtant, à la mi-juin 2003, c'est bel et bien lui qui remporte la mise.
Il y a dans la vie quelquefois des moments où il faut punir ce qu'on aime. Il ne sert à rien maintenant de s'apitoyer. Sautez dans votre voiture et venez me voir. J'ai quelque chose pour vous. Vous ne regretterez pas votre déplacement.
Voici ce que dit Kevin Manis dans un message posté sur son blog le 25 novembre 2004. Après la fin de la période des enchères, j'ai contacté l'acheteur. Je voulais savoir de qui il s'agissait. Étonnamment, ce n'était pas un féru d'occultisme, mais un étudiant du Midwest qui m'a dit qu'il avait misé sur la boîte parce qu'il voulait un petit coffret à vin et que l'aspect paranormal de l'annonce ne l'intéressait absolument pas. Pour être sûr, j'ai proposé à plusieurs reprises à l'acquéreur d'annuler son achat, mais il a catégoriquement refusé ma suggestion.
Et moi, entre-temps, je vais revenir à mes affaires pour être prêt quand l'heure viendra.
Le vendredi 13 juin 2003, le coffret quitte définitivement Portland dans l'Oregon pour Kirksville dans le Missouri.
La clé est là.
Dans cette boîte ?
N'y touche pas ! C'est dangereux. Elle ouvre des portes.
Quel genre de portes ?
Des portes qui mènent au plaisir du paradis ou de l'enfer. L'un ou l'autre, ça m'était égal. Je croyais avoir tout exploré. Je me trompais. Les cénobites m'ont fait vivre une expérience au-delà des limites connues. La souffrance mêlée au plaisir, indissociable.
C'est donc avec stupéfaction qu'un jour après les cours, Brian Grubbs découvre sur la table de la cuisine un nouveau colocataire. Un petit coffret en bois avec de grappes de raisin en façade pour la décoration et une jolie poignée en laiton.
La seule chose qu'on sait avec certitude, c'est la présence de cette prétendue boîte magique.
Quelle boîte magique ?
Leur gamin m'a dit qu'un monstre en était sorti et avait tué sa grand-mère.
C'est super bizarre.
La boîte était chez eux.
Les deux étudiants sont persuadés que cette histoire d'antise est un vaste canular dont le but était de faire monter le prix de vente. Mais comme le récit est très détaillé et intriguant, Joseph Nitzke et Brian Grubbs pense bien le mettre à profit pour amuser la galerie.
C'est une farce, ce truc. Ouais, c'est bon qu'il a fait bouger, hein.
Tel un trophée, la boîte trône au milieu du salon et chaque invité intrigué par l'objet a le droit à un long monologue sur la légende maudite de la boîte à 10 books avec cet effrayant avertissement « Si jamais tu fais des cauchemars pendant la nuit, c'est que le démon de la boîte te poursuit. »
Le bruit que j'ai entendu hier, c'était toi ? Qui est là ?
Très vite, sur tout le campus, l'inquiétante rumeur se répand et rend nos deux étudiants de plus en plus populaires, ce qui n'est pas pour leur déplaire. On blague un peu nerveusement sur les mésaventures de son ancien propriétaire. On joue à se faire peur comme dans les films d'horreur. Si dans un premier temps, toute cette agitation autour de cette nouvelle acquisition est divertissante, rapidement les deux amis vont vivre, ou plutôt subir, toute une série de mésaventures inédites. Tout commence par des appareils électroniques qui subitement tombent en panne. Puis les ampoules du couloir vont sans raison apparente exploser. Un scénario qui n'est pas sans rappeler ce qui s'est déroulé avec les néons dans le sous-sol de la boutique de Kevin Manis. Joseph, intrigué par l'enchaînement irrationnel de tous ces dysfonctionnements, va ouvrir un blog pour relater tout ce qui lui arrive depuis qu'il est entré en possession de la boîte à 10 books. Dans son journal de bord numérique, il publie tous les événements étranges qu'il observe et dont il est aussi parfois la victime. Tout d'abord, il y a des problèmes électriques. L'étudiant dresse rapidement une liste des objets qui viennent de rendre l'âme. La console de jeu, le grille-pain, la télévision dans le salon, et même sa montre et son ordinateur portable dont il a fallu remplacer le disque dur. Dans les jours qui suivent, d'autres soucis rendent la vie des colocataires de plus en plus pénible. Il y a tout d'abord une odeur nauséabonde dont on ne trouve pas la source, puis l'apparition d'insectes nuisibles dans toutes les pièces de la maison. Il y en a absolument partout. Ils rampent sur les murs du salon, se baladent dans les placards de la cuisine, il y en a même dans la salle de bain.
Prenez-la, elle est à vous. Elle vous était destinée.
Joseph ajoute un nouveau post à son blog. Voici ce qu'il écrit. Je distingue des formes dans ma vision périphérique. Et depuis mercredi dernier, je perds une quantité impressionnante de cheveux. C'est peut-être le stress, mais j'ai un doute. Pendant l'été de l'année 2003, les colocataires décident d'un commun accord d'héberger chacun à leur tour dans leur chambre le coffret. Un premier étudiant devient complètement apathique. Deux autres souffrent de problèmes d'irritation aux yeux quand un quatrième tombe subitement malade.
Ça nourrit mon corps. S'il te plaît, guéris-moi.
Brian, totalement impuissant, remarque que Joseph devient de plus en plus solitaire et de moins en moins loquace.
Ça va ? Tu es malade ?
Il passe de nombreuses heures seul dans sa chambre et ne parle plus de la boîte à 10 books, comme s'il souhaitait qu'elle ne soit déjà plus là, ou comme s'il avait peur d'évoquer sa présence dans la maison. Ce qui n'était qu'au départ une plaisanterie est en train de virer au cauchemar. Aux manifestations incompréhensibles et inquiétantes s'ajoutent des changements de comportement chez Joseph, dont les symptômes ressemblent fortement à ceux de la dépression. On peut lire sur son blog. Mercredi 10 septembre 2003. Bien qu'il soit impossible de prouver que la boîte soit directement impliquée dans ce qui vient de se passer, nous avons vécu des choses invraisemblables ces derniers jours. Des odeurs étranges imprègnent les objets de la maison. Un colocataire se retrouve au lit avec une bronchite. On a retrouvé des souris mortes dans le moteur de notre voiture et je viens de me casser un doigt. Au début de l'automne 2003, l'étudiant fragile psychologiquement et physiquement quitte précipitamment la colocation pour retourner vivre chez ses parents. Et ce n'est que fin novembre qu'il repassera en coup de vent pendant la période de Thanksgiving pour récupérer ses dernières affaires et le précieux coffret.
Quand est-ce qu'on peut l'arrêter ? Le seul moyen d'arrêter le D-Book, c'est de lui commander de revenir dans la boîte en l'appelant par son nom.
Je ne connais pas son nom. Tout ce que j'ai, c'est cette boîte. Vous êtes mon seul espoir.
À cette époque, Jason Axton, 46 ans, est depuis le mois de janvier 2001 le conservateur et directeur du musée de médecine ostéopathique de l'université de Truman, dont le but est de mettre en valeur l'histoire internationale de l'ostéopathie de 1880 à nos jours. Grand passionné d'artefacts et d'antiquités, c'est donc tout naturellement que Jason a eu vent de l'histoire de Joseph et de Brian par l'entremise d'un jeune homme travaillant dans son musée et qui n'est autre que l'un des colocataires des deux étudiants.
Je t'avoue que j'en ai un peu assez de toute cette archéologie de l'extrême. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quelque chose ?
Je suis pas sûr à 100%, mais regarde, à quoi ça te fait penser ? Hein ?
J'en sais rien, une barrette ?
Non, réfléchis, t'as pas vu cette forme récemment ? Regarde avec attention.
Tout en suivant avec assiduité le blog de Joseph, Jason apprend début 2004 que la boîte ensorcelée va de nouveau être mise en vente sur eBay et il est prêt à débourser plusieurs centaines de dollars pour se la procurer.
Je crois que c'était une boîte, non ? En effet. Que pouvez-vous m'en dire ? Oh, pas grand-chose. C'est une vieillerie, un cadeau.
Il y a quoi dedans ?
Ça, j'en sais rien. Je crois savoir qu'elle ne s'ouvre pas, cette boîte.
Le prix de départ est de seulement 99 cents. Mais très vite, il va prendre l'ascenseur. Quelques heures plus tard, le coffret est déjà à 50 dollars. En 48 heures, la plus forte mise est de 108 dollars. Il semble que l'histoire liée à l'objet passionne les internautes. Jason, toujours très motivé, renchérit et propose la somme de 280 dollars, soit le double de ce que Joseph Nitzke avait déboursé pour l'acquérir auprès de Kevin Manis. Quelques jours plus tard, le 9 février 2004, Jason Axton est officiellement le nouveau propriétaire de la boîte à D-Book et est tout à fait conscient qu'à présent, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Et bien entendu, c'est le pire qui reste à venir.
C'est un plaisir de faire des affaires avec vous.
Comme Brian Grubbs n'habite pas très loin du musée de l'université, c'est le mardi 11 février qu'il va remettre en main propre à son directeur, soigneusement emballé dans un carton rempli de papier bulle, le coffret. Car Joseph, qu'il avait entreposé dans son garage familial, ne souhaite plus s'en approcher.
Il faut que tu la prennes dans les mains.
On s'en fout de ta boîte.
Je veux que tu la prennes.
Brian, qui n'est là que pour faire la livraison, n'exprime ni remords ni regrets et ne s'attarde pas plus longtemps dans le bureau de Jason Axton.
Je suis désolé.
Une fois seul, la première étape est de procéder à un examen minutieux de l'objet avec une lampe à ultraviolet. Le conservateur remarque tout de suite des traces lumineuses provenant de résidus de cire de bougie, ce qui pourrait indiquer que le coffret aurait peut-être servi à un rituel religieux.
C'est un mot hébreu qui peut dire « esprit errant ». C'est une boîte à D-Book.
Alors, elle avait été faite pour un usage religieux ?
Eh bien, les branches les plus traditionnalistes du judaïsme, et en particulier les sectes hassidiques, croient en différents esprits qui peuvent être bienveillants et...
Bienveillants et...
malfaisants, comme les démons.
9 mois, presque jour pour jour, après avoir entendu parler pour la première fois de la boîte à D-Book, notre directeur tire avec précaution la poignée en laiton pour que les portes s'ouvrent. Jason actionne le mécanisme, le coffret dévoile son contenu dans un calme absolu. À tel point qu'il en est d'ailleurs presque déçu. Tout comme Kevin Manis, il ausculte son contenu en ayant pris soin de mettre une paire de gants latex pour éviter tout risque de contamination, car il pense que tous les phénomènes survenus par le passé sont causés non pas par un esprit malsain, mais par des germes et autres bactéries. Parfois même, c'est de l'ammoniac ou d'autres composés chimiques, autrefois utilisés comme lustreurs pour le bois, qui peuvent affecter la santé. Mais tous les tests effectués se révèlent tous être négatifs.
Depuis des siècles, des légendes nous parlent d'une arme divine. Une boîte qui se transmet de génération en génération aux gens qu'on aime. À l'intérieur de la boîte se cache un dieu déchu. Il est retenu contre sa volonté et condamné à agir de façon malveillante. Il ne cesse de s'attaquer à tous les êtres vivants. Ceux qui ont un jour possédé cette boîte ont dû être vigilants car la créature tapie à l'intérieur finit toujours par en jaillir et tuer ceux qu'ils aiment les uns après les autres. Cette boîte était indestructible. On ne pouvait ni la jeter, ni la donner à n'importe qui.
Pendant les premiers jours, il ne se passe rien de particulier. Aucune manifestation paranormale, aucun cauchemar bizarre, quand subitement les ordinateurs du laboratoire de recherche du musée tombent en panne les uns après les autres. Ce sont des semaines de travail qui en quelques secondes sont effacées. Et comme avec un air de déjà-vu, ce sont ensuite les ampoules qui vont subitement exploser.
Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien? C'était quoi ça?
J'ai vu un reflet dans le miroir et d'un coup quelqu'un m'a poussé par derrière.
Puis après les machines et les objets, c'est au tour des humains d'être affectés par un mal étrange. Parmi tout le personnel du musée, certains employés ressentent une grande fatigue, quand d'autres font des malaises. Le plus intriguant, c'est le nombre de cas importants sur une si courte durée. Mécontentement, méfiance, rumeurs en tout genre, l'ambiance au musée devient vite exécrable et certains assistants refusent à présent de travailler à proximité de cette boîte de malheur. Jason n'a d'autre choix que d'emporter la petite cave à vin chez lui, ce qui n'est pas pour le rassurer. Mais que faire d'autre ? En attendant de trouver une meilleure solution, la boîte restera dans son vieux manoir qui se trouve aux abords d'un cimetière.
Oui, je le ferai.
Il nous faut la peau, en quantité.
C'est alors qu'il rêve constamment de vieilles femmes aux cheveux gris et aux yeux noirs enfoncés dans leurs orbites, et dont la peau du visage se décompose en lambeaux de chair sanguinolents. Dès que Jason se rendort, les visions cauchemardesques réapparaissent.
Je suis prête à exaucer tous tes caprices. Tous tes désirs.
Si les nuits de Jason Axton sont agitées, ses journées sont tout aussi éprouvantes. Il se réveille avec les yeux rouges et gonflés et connaît divers problèmes de santé. Suffocation, palpitations, douleurs aiguës au ventre et même de l'urticaire. Sa vie de famille s'en trouve totalement chamboulée. Un soir, alors qu'il regarde la télévision avec son jeune fils prénommé Ross, le petit garçon lui chuchote à l'oreille « Regarde papa, qu'est-ce que c'est ?» À l'autre bout de la pièce, père et fils observent des flammes noires qui se déplacent lentement dans les airs.
Il faut que tu viennes m'aider.
Il est temps de prendre des mesures plus radicales pour que tout cela cesse. C'est alors que Jason se souvient qu'il possède une maison de location inhabitée, avec en sous-sol une cave. Cela semble être le meilleur endroit pour l'oublier, et qu'elle ne fasse plus de mal aux personnes avec qui elle entre en contact.
Le Dibouk cherche l'innocence, une âme pure. Il va sortir de la boîte et y revenir, à la recherche de l'autre qui convient. L'autre commence à entendre des voix, à avoir des visions. L'esprit provoque ces phénomènes dans le but de protéger l'autre et d'éloigner les autres.
Mais c'est une mauvaise idée, car malgré l'éloignement physique, les manifestations vont s'intensifier. Pendant que Jason expulse par la bouche une sorte de mucus blanchâtre et ressent à de nombreuses reprises une sensation d'étouffement, sa femme est recouverte de cloques purulentes au niveau des poignets.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Tu suggères qu'on vive comme des fuyards ?
Tu vas me demander d'aller creuser une tombe au milieu de nulle part ?
Et après, tu me demanderas quoi encore ?
Tu vas vouloir qu'on recommence tout à zéro ailleurs ?
Je ne sais pas comment on va s'en sortir.
Pour neutraliser les effets néfastes de la boîte, Jason doit à présent découvrir toute son histoire. Et le mieux placé pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi elle ne contient pas des verres en cristal ou du vin, mais des objets religieux, des souvenirs personnels et peut-être même un esprit tourmenté, c'est Kevin Manis. Après de nombreuses recherches sur Internet, Jason retrouve le numéro de téléphone de l'antiquaire qui, dès qu'il entend parler de la boîte à D-Book, lui raccroche au nez, car il pense que son nouveau propriétaire souhaite lui redonner l'objet.
C'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de la donner à quelqu'un que tu aimes. Ne la garde pas. Pense à l'offrir à quelqu'un.
Jason recompose le numéro de téléphone et insiste pour avoir de l'aide dans les plus brefs délais. Kevin Manis finit par accepter et propose à son interlocuteur de tenter de retrouver l'adresse de la maison de la vieille femme juive à qui appartenait le coffret.
Donne-lui la boîte.
C'est non sans peine, après plusieurs tours de voiture dans le sud de Portland, que Kevin retrouve le domicile où il avait acheté, il y a présent presque 2 ans, le lot numéro 29. La chance est de son côté, car la petite fille d'Avella habite toujours à cette adresse.
À force de poursuivre les morts, vivre au cœur de toutes ces ombres, elle n'a pas réussi à prendre du recul, à rompre le contact. Les esprits l'ont possédée. On peut dire qu'ils l'ont dévorée.
Déborah reconnaît d'ailleurs tout de suite Kevin Manis, qui semble bien emprunté, car il ne sait pas par où commencer son histoire sans que la jeune femme lui claque la porte au nez. Ses craintes sont d'ailleurs fondées, car la conversation n'est pas des plus cordiales. Il semble que son interlocutrice souhaite écourter au plus vite cette visite inattendue. Manis est sur le point de quitter les lieux quand une seconde femme apparaît sur le pas de la porte. Il s'agit d'une petite femme âgée et frêle, de 80 ou 85 ans, qui se présente comme étant la cousine germaine d'Avella. Elle se prénomme Sophie et lui dit en la regardant à présent droit dans les yeux « Je sais pourquoi vous êtes là, il vous a choisi. »
Vous l'avez libérée ?
Non, c'était...
Oh, je lui avais dit que je l'aiderais un jour. J'ai entendu les voix, moi aussi.
Et elles disent les plus merveilleuses et horribles choses. Vous allez les entendre, vous aussi. Et vous les entendrez très bientôt, parce qu'elle sait où vous êtes et qu'elle vient pour vous. Je l'ai toujours dit, elle le sait.
J'ai besoin de renfort dans la
salle. Je lui ai dit depuis toujours et elle sera gentille avec moi. Elle le sait, elle savait que je l'aiderai. Et maintenant, elle sera gentille avec moi.
On vous ramène dans votre chambre.
Elle tiendra sa promesse, vous verrez. Elle tiendra sa promesse. Non.
Kevin suit alors Sophie dans un patio qui se trouve juste après le salon de la maison. Avant même de lui raconter l'histoire de la boîte à vin, Sophie se met à sangloter et prier en hébreu. Kevin tente tant bien que mal de la réconforter, et c'est alors que Déborah apporte un peu de thé. Sophie, en séchant ses larmes, prend la parole. Elle explique que vers la fin des années 30, Avella et sa mère habitaient en Pologne et qu'elles étaient très proches. À cette époque, où le spiritisme était une pratique très prisée, Avella avait brodé des lettres sur une nappe pour en faire une sorte de planche Ouija. Et elle appelait les esprits en s'aidant de 2 manuels. L'un racontant la légende de Rabbi Lao, un rabbin du XVIe siècle qui aurait conçu un golem fait d'argile pour défendre le peuple juif contre les agressions de nature antisémite.
Elle conduisait des séances, elle se servait d'un pendule, d'une planche, de tout ce qui existait. C'était imprudent, il faut l'admettre. Elle était totalement fascinée par tout ça. Ensuite, quand les séances ont pris de l'ampleur, ma mère a commencé à vraiment entrer en contact. Elle a dû trouver un récepteur. Un récepteur pour leur donner une voix.
À qui ?
Aux esprits, enfin.
L'autre étant le Sefer Yetzira, ou le livre de la formation, qui est l'ouvrage le plus important des écrits anonymes de la Kabbale. C'est dans ce vieux manuscrit qu'est mentionné le terme de D-Book.
Le dernier stade consiste pour le D-Book à se souder à l'autre. Les deux ne font plus qu'un. Il s'en nourrira jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il désire une seule chose, la seule qu'il ne possède pas.
Leben.
La vie.
Le mot D-Book est un dérivé du terme hébreu attachement et désigne un cas de possession par une âme errante.
C'est en ami sincère que nous nous présentons. Esprit de l'au-delà, en ces lieux nous t'invoquons.
Esprit, es-tu là avec nous ? Envoie-nous un signe. «
Envoie-nous un signe. Tu es là?
Au cours d'une séance de spiritisme, le 8 novembre 1938, très exactement, le petit cercle de femmes est entré avec l'aide de la nappe brodée et d'un pendule en contact avec un esprit singulier, demandant aux jeunes femmes de bien vouloir l'aider à quitter les limbes. Paniquées à l'idée d'avoir affaire à un Dibouk, un démon malfaisant souhaitant s'emparer de leur corps et de leurs âmes, Avella a inventé un rituel magique pour se débarrasser de l'entité et l'enfermer dans une boîte, une petite boîte à vin qu'elle possédait et qu'il ne fallait sous aucun prétexte ouvrir.
Prenez garde. Mortel. Ne pas ouvrir. Alors, ne l'ouvrez pas.
Mais hélas, c'est bel et bien ce que Kevin avait fait, quelques heures après son achat, libérant ainsi la force démoniaque, en sommeil depuis plus de 60 années. Très vite, c'est au tour de Jason Axton d'apprendre toute la vérité sur la redoutable boîte à Dibouk. Suite à toutes ces révélations, le coffret hanté va connaître dans les mois suivants une notoriété grandissante. Un journal local juif va même lui consacrer un article en exposant tous les maux qui ont sérieusement bouleversé la vie de ses propriétaires.
Quand est-ce qu'on peut l'arrêter?
Le seul moyen d'arrêter le Dibouk, c'est de lui commander de revenir dans la boîte en l'appelant par son nom.
Je ne connais pas son nom.
Rapidement, des scénaristes, des écrivains, des historiens vont solliciter Jason afin de pouvoir à leur tour étudier la fameuse boîte maudite. Mais l'engouement médiatique est tel que Jason n'arrive plus à répondre au flot incessant de questions et de demandes. Afin de retrouver un peu de calme et de sérénité, il va changer de numéro de téléphone et mettre en ligne un site internet toujours accessible, dibookbox.com, afin de partager ses réflexions et études sur cet artefact mystérieux et le démon qu'il contiendrait.
Sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité, un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la...
Une personne, via un message envoyé par eBay, va lui proposer son aide. Il s'agit de Rebecca Edry.
Qui êtes-vous ?
Rebecca a 29 ans, elle est comptable et vit à Brooklyn. Son père, décédé 12 ans auparavant, était ce qu'on appelle un kabbaliste, c'est-à-dire un spécialiste de la Kabbale, cette tradition mystique et hermétique du judaïsme. Rebecca est convaincue que le coffret est un objet sacré qui est lié à un esprit. Elle estime que pour mettre un terme au phénomène, la boîte doit être enterrée dans un cimetière juif et qu'une dizaine d'hommes doivent former pendant ce rituel un groupe de prière.
Aidez-moi, je vous en supplie.
Dans ce genre de cas, nous devons nous en remettre à la volonté de Dieu.
Le directeur laisse cette proposition de côté pour se tourner vers d'autres personnes, afin de percer le mystère de la boîte ensorcelée. Jason, en se basant cette fois-ci sur les indications d'un rabbin et de Bobby Parker de la Virginia Scientific Research Association fondée en 1992, pense pouvoir neutraliser les effets toxiques du coffret en l'enfermant dans une autre boîte plus grande faite de bois d'acacia et de feuilles d'or, comme pour créer un puissant champ électromagnétique. D'après le livre de l'Exode, le bois d'acacia et l'or ont été utilisés pour créer l'Arche d'Alliance qui contenait les tablettes des 10 commandements.
Tout ce que j'ai, c'est cette boîte. Vous êtes mon seul espoir. J'ai vu cette cérémonie. Un exorcisme.
Et cela comporte trop de risques. Les Dibouk pourraient s'attaquer à quiconque tenterait de pratiquer cette cérémonie.
Non. S'il vous plaît, attendez, je vous en prie. faut que quelqu'un ici accepte de m'aider.
Voilà donc une proposition intéressante, mais le plus gros souci est de trouver les bons matériaux et à un bon prix. Surtout que le bois d'acacia est précieux et rare aux États-Unis. Pour le bois d'acacia, c'est une démonstration de force de la nature et non pas surnaturelle qui va venir en aide à Jason. En faisant quelques recherches sur Internet, il découvre qu'au début de l'année 2004, un ouragan qui a frappé la Floride a déraciné un vieil acacia planté juste après la Seconde Guerre mondiale. Son propriétaire l'a ensuite fait découper en morceaux dans une scierie locale. Comme les planches issues de l'arbre contiennent plusieurs poches d'air qui les rendent impropres à la confection de mobilier, Jason acquiert trois gros morceaux à bon prix. Pour l'or, il va se fournir en feuilles 24 carats auprès de la Thaïlande qui en vend à ce moment-là à un prix défiant toute concurrence.
Quand j'ai débuté dans ce métier, je n'étais qu'un simple camelot, ne passant jamais de nuit sous le même toit, errant de pays en pays, toujours sur les routes. L'Asie, l'Anatolie, la Palestine, la Macédoine, pendant des années. Et j'ai toujours trouvé des clients. Et la demande était plus forte que l'offre.
C'est un artisan amish qui habite à proximité de Burksville qui va se charger de confectionner cet étrange sarcophage. Il s'agit visuellement d'un coffret en bois d'acacia, à peine plus grand que la boîte à 10 books, et dont l'intérieur est entièrement tapissé de plusieurs couches de feuilles d'or. Jason va utiliser de la gomme arabique pour coller les feuilles d'or ensemble. De la gomme arabique qui n'est autre que de la sève pure d'acacia. Toujours sur les conseils de spécialistes en ésotérisme et de la cabale, Jason va introduire dans le coffret des rouleaux de la Torah.
Comme les autres l'ont fait dans le passé, je vous ai demandé de mettre dans la boîte un objet personnel. On croit que cela renforce la prière. Cette montre appartenait à mon grand-père. La force de ma famille entière est avec nous. Une fois que l'on a commencé, on doit terminer la cérémonie. Le Dibouk va tout faire pour nous empêcher d'y parvenir.
Ne bouge pas.
Même en présence du mal, notre foi doit demeurer inébranlable.
Ça va. Je t'en prie, mon Dieu.
L'huile de deux oliviers. L'huile représente la lumière, l'eau représente les ténèbres. Puisse Dieu les séparer. Car seule la lumière peut dissiper les ténèbres.
La boîte sera ensuite placée pendant plusieurs années dans un endroit tenu secret dans le nord-est du Missouri. Ce n'est que le 28 août 2012 que la boîte sera exceptionnellement réouverte par son propriétaire pour les journalistes de l'hebdomadaire Riverfront Times, à l'occasion du lancement du film The Possession de Sam Raimi et qui raconte de manière romancée l'histoire de la boîte à 10 books.
J'ai remarqué qu'il t'arrivait parfois de parler à cette boîte.
C'est pas à elle que je parle. C'est à mon ami.
Ton ami?
Quoi?
T'as dit que tu parlais à ton ami?
Mon ami qui vit dans la boîte.
Depuis la mise en place de la protection, la famille Axton affirme ne plus avoir de problème, à part ceux inhérents aux curieux et curieuses qui aimeraient s'en approcher ou à leur tour la posséder. Parmi les collectionneurs et les connaisseurs de ce genre d'objets, il y a un certain Zach Bagans. Zach Bagans est un Américain de 42 ans spécialisé dans le paranormal. Il est connu pour son show Ghost Adventures, diffusé depuis 2008 sur Travel Channel, et en français sur C8 et Planète Plus.
Il faut qu'on sache son nom.
J'ai tout fouillé, mais je connais pas son nom.
On a gravé une prière du livre des psaumes. On y a placé des jetons. Mais pourquoi un miroir, si l'esprit est enfermé? De cette façon, il sera forcé de se regarder et de se rappeler pour l'éternité qu'il s'est détourné de Dieu.
Seigneur.
En 2017, il a ouvert à Las Vegas un musée de 33 salles entièrement dédié à l'étrange et au paranormal. Un immense cabinet de curiosités qui se trouve dans un vieux manoir réputé hanté et dont l'une des pièces maîtresses exposées est la fameuse boîte à 10 books qu'il a achetée en 2016 à Jason Axton pour une somme évaluée à plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Le bazar des rêves, la boutique de l'insolite. Vous n'en croirez pas vos yeux. C'est écrit en toutes lettres.
C'est que ça doit être vrai.
Nuit blanche, couleur 3.
La boîte à 10 books. Une légende inventée de toutes pièces, une expérience effrayante aux frontières du réel. Aujourd'hui, les avis sont partagés. Parmi les plus méfiants, il y a Michael Callan, un ami de Jason rencontré à l'école de médecine et qui se passionne depuis de nombreuses années pour la magie. Il considère que le récit des Haxton est exagéré et dit qu'il n'a jamais eu de problème avec la boîte alors qu'il l'a gardée chez lui pendant toute une semaine. Cela va peut-être vous étonner, mais Jason Haxton lui-même est partagé concernant l'histoire de ce coffret. Car si pour lui, des choses irrationnelles se sont bel et bien déroulées, son histoire est tout aussi obscure que l'esprit qu'il contient. Jason a mené sa propre enquête et s'est rendu en juin 2004 dans l'Oregon à Portland pour rencontrer Kevin Manis. S'il a bien retrouvé l'antiquaire, celui-ci n'a pas été en mesure de lui indiquer l'adresse de la maison de la vieille dame juive décédée en 2001 et de lui donner son nom de famille. Après avoir longuement insisté, Manis a fini par lâcher le nom de Jewiski. Mais Haxton n'a trouvé aucune trace d'une personne portant ce nom dans la région, ni aucune trace d'une femme de 103 ans décédée en 2001 dans la ville de Portland. Par contre, il a pu retrouver les frères et sœurs de Kevin, qui affirment n'avoir jamais vécu de phénomènes paranormaux en lien avec la boîte à 10 books. Quant à Manis, il s'en tient toujours à son histoire originale, prétendant qu'il a retrouvé la famille de la vieille dame seulement après le départ d'Haxton, mais il refuse encore aujourd'hui de révéler son lieu de résidence et son identité. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur l'histoire tumultueuse de ce petit coffret à vin devenu l'antre d'un démon infernal, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. On commence par un peu de lecture en anglais avec un livre de 192 pages, The 10 Book Box de Jason Haxton, sorti en octobre 2011 et édité par la Truman State University Press du Missouri. Très bien documenté, avec des photographies, des retranscriptions de mails et d'appels téléphoniques, cet ouvrage est à la fois une quête et une enquête personnelle, mais aussi une source d'informations sur les courants mystiques du judaïsme. Son auteur laisse le soin au lecteur de tirer ses propres conclusions sur cette histoire de boîte à démons. Soit tout est un canular, soit tout est vrai, soit nous sommes dans un entre-deux, entre fiction et réalité. Dans ce livre, écrit en 9 mois, avec l'aide de l'écrivain Gilles Fowler, auteur de Death on Pleasant Street, on apprend qu'en octobre 2004, un avocat représentant le réalisateur et producteur Sam Raimi a contacté Haxton. Raimi a entendu parler de son étrange boîte à 10 books par le biais d'un article du Los Angeles Times. Raimi souhaite obtenir les droits de cette histoire pour en faire un film. Dans un premier temps, Jason Haxton refuse cette proposition. Mais finalement, il change d'avis et signe un contrat. Fin août 2012, sort dans les salles le film The Possession, possédé en français, avec à la production Sam Raimi, qui avait au début des années 80 terrorisé toute une génération d'adolescents avec le film culte Evil Dead. Il a confié la réalisation du long métrage au Danois Ole Bornedal, qui a déclaré à la presse que pendant le tournage du film, des ampoules ont explosé spontanément et qu'un immense entrepôt de stockage à Vancouver, où les décors et les accessoires du film étaient conservés, a totalement brûlé sans aucune explication apparente. Dans The Possession, vous pourrez apercevoir dès la première minute du film une étrange boîte bien différente de celle que nous vous avons décrite. Sur grand écran, elle s'est métamorphosée en un petit coffre allongé de bois foncé avec des inscriptions hébraïques en façade. Pour admirer une réplique quasi parfaite du véritable coffret, il faut regarder l'épisode 4 de la saison 2 de la série Paranormal Witness de la chaîne Sci-Fi. Dans ce documentaire d'une quarantaine de minutes, mélangeant témoignages et scènes de reconstitution volontairement effrayantes, on retrouve face caméra Jason Haxton, Kevin Manis et sa mère Ida Menis. Mais aussi le jeune étudiant Brian Grubbs, qui nous raconte chacun à leur tour ce qu'ils ont vécu comme expérience en ouvrant les portes de la boîte à 10 books. Une boîte qui attend patiemment votre venue dans le Nevada, au Haunted Museum de Zach Bagans, situé sur Charleston Boulevard, dans un vieux manoir de 1938 de plus de 1000 mètres carrés, construit à l'époque pour un banquier. Il est mentionné sur le site officiel du musée que peu de temps après l'arrivée de la boîte à D-Book, des trous ont mystérieusement commencé à apparaître autour de l'artefact. Un responsable du marketing du centre-ville de Las Vegas a également vu une silhouette passer à travers une porte fermée de l'exposition lors d'une visite privée. À ce sujet, le rappeur Post Malone a visité le musée de Zach Bagans en juin 2018. À cette occasion, son propriétaire a retiré sa protection en verre blindé, libérant ainsi une malédiction qui semble-t-il a poursuivi le chanteur pendant plusieurs mois d'affilée. En août 2018, Post Malone monte à bord d'un jet privé pour se rendre à Londres. Les pneus de l'avion explosent immédiatement après le décollage. Quelques jours plus tard, des voleurs armés font irruption dans une maison de San Fernando que la star a l'habitude de fréquenter. Enfin, le 7 septembre, sa Rolls a été détruite lors d'un accident de la route sur West Hollywood. Bien que Malone n'ait pas été blessé, Zach pense que ces événements sont l'œuvre de la boîte maudite. C'est pourquoi vous devez obligatoirement signer une décharge à l'entrée du musée au cas où il se passerait des choses étranges pendant ou après votre visite. À noter qu'il faut avoir plus de 16 ans pour entrer. Prix du ticket pour une visite guidée, $48. Plus d'infos sur thehauntedmuseum.com.
C'est Franck. Tu te souviens, oncle Franck.
Il est temps à présent de refermer les portes de la boîte à D-Book. Pour la réalisation, nous avions invoqué l'esprit maudit de Franck Pourpré. Concernant le récit, vous étiez possédé par Michael Marquet. Nuit Blanche est disponible sur votre application de podcast préférée, Deezer, Spotify et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, sur l'application de Couleur 3 rubrique émission et sur rts.ch rubrique radio, podcast originaux. Nous avons mis aussi en place une cellule psychologique pour les cas les plus désespérés, nuitblanche@rts.ch. Compte tenu de l'actualité, nous ne sommes pas en mesure, au moment de cet enregistrement, de vous assurer que nous pourrons vous offrir une nouvelle soirée très agitée pendant la pleine lune du mois de mai. Si cela devait être le cas, nous vous remercions par avance pour votre indulgence. Et surtout, n'oubliez pas avant d'acheter un objet d'occasion dans une vente aux enchères, un vide-grenier, une boutique d'antiquité ou sur eBay, de bien vérifier son historique, sa provenance, son contenu et sa signification, car il se pourrait bien que vous soyez la prochaine victime d'un esprit tourmenté ou d'un vieux démon.